Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Fraternité et espérance, voilà les remèdes dont le monde a besoin autant que des vaccins. C'est ce qu'a notamment déclaré lundi dernier le pape François lors de ses vœux aux ambassadeurs accrédités près le Saint-Siège. Pour nous aider à nous mettre sur ce chemin, trois films ce matin à l'affiche de votre émission Vivante Église Cinéma de ce mois. Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Parano. Un film iranien sur la peur de l'autre transformé en régime politique. Le fils des frères Dardenne sur l'impossible coexistence avec l'ennemi et d'une seule voix de Xavier de Lausanne, l'histoire d'une chorale chrétienne, juive et musulmane en Terre Sainte, preuve s'il en est que seule l'espérance a de l'avenir. Le grand écran, c'est le thème de votre émission Vivante Église de ce matin, émission cinéma. Fidèle au rendez-vous, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, n'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour, pardon. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous et bonjour Paul.
Bonjour à toi aussi
Louis-Marie. Et Paul Dima, ils vont se faire les présentations tout seuls bientôt. Toujours intervenant cinéma pour les Côtes-au-Pays, c'est Centre Jésuite dans le Sud-Ouest. Bonjour Paul.
Bonjour Emmanuel et bonjour à tous.
Louis-Marie et à Louis-Marie.
Et c'est déjà fait.
Allez, premier film à l'affiche, en tout cas de cette émission, puisqu'on est toujours privé de cinéma. Vous avez choisi Persépolis, ce film iranien donc, qui date de 2007, de Marjane Satrapi et Vincent Parano. Cette fois, c'est bon. Film franco-iranien. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Moi, Marjane, future prophète, ai décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit faire une bonne action.
Nous sommes en train de vivre un moment historique.
Troisièmement, plus aucune vieille ne souffrira.
Si c'est comme ça, je veux bien être ta première disciple.
C'est vrai? Génial!
Back on the street.
T'as vu une révolution et une guerre.
Ah ouais?
T'as vu beaucoup de morts?
Quelques-uns.
Waouh. Balèze.
Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus.
Dans la vie, tu rencontreras beaucoup de cons. Reste toujours digne et intègre à toi-même.
Persépolis, alors comme la bande-annonce le montre, c'est un film qui secoue. L'histoire, c'est donc l'histoire de Marjane. C'est une petite fille de 8 ans qui va grandir. En tout cas, quand elle a 8 ans, donc fille choyée, on va dire, de l'élite iranienne. Fille choyée par ses parents, par sa famille, par sa grand-mère qu'on a entendue, qui a la langue bien pendue et qui a du tempérament. Et c'est à l'occasion donc de la chute du régime du Shah d'Iran, puis l'instauration de la République islamique. Après, c'est la guerre contre l'Irak. C'est une jeune fille qui grandit au milieu de toutes ces pages sombres de l'histoire et qui partira en exil à Vienne. Voilà, c'est l'histoire, on va dire, d'un pays, Paul Dima, à travers le regard d'une petite et puis d'une jeune fille.
Oui, à travers le regard de cette jeune fille qui perçoit plein de choses de par sa famille, d'une part qui est très, très bien placée et avec la volonté des parents de lui transmettre l'histoire pour qu'elle comprenne d'où elle vient et où sombre le pays à ce moment-là. Et puis, c'est après le récit, un peu comme un livre qu'elle écrirait, un livre intime, où elle raconte son errance loin de sa famille, puisque pour la faire échapper aux turbulences de l'époque, ses parents l'envoient à Vienne et elle vit une adolescence plutôt difficile là-bas, avant de revenir auprès de ses parents.
Le contexte politique, on peut peut-être réexpliquer un petit peu.
C'est l'installation du régime des mollahs.
La République islamiste.
La République islamique.
1978.
Oui. Islamique, pardon.
Avec toutes les contraintes de la police des mœurs, des femmes qu'on met sous le voile et qu'on enferme, quoi, qu'on opprime. Et il y a une grand-mère qui
a tout vu.
Oui, qui n'a pas la langue dans sa poche. Et, et qui l'invite à, voilà, elle lui dit tu verras des cons dans ta vie, mais voilà, reste digne.
Ça, c'est pour l'histoire. On y reviendra avec différents thèmes, évidemment. On peut dire que c'est un film qui a eu un grand succès, Louis-Marie. Hein,
oui.
Non primé de très nombreuses fois. J'ai noté juste Cannes, bien prix sûr. Du jury, le César de la meilleure première œuvre et César de la meilleure adaptation. Et il y en a plein d'autres des prix. Hein.
Oui, il y en a eu beaucoup. Et, un beau succès public, puisque le film, je ne sais pas si on l'a dit, mais c'est un film d'animation.
Film d'animation, vous avez raison de préciser, on a oublié de le dire.
Et que pour un film d'animation, il a eu une belle carrière. Et c'est un film qui a fait quand même en France plus d'1,2 million entrées, ce qui est une belle performance pour un film de genre. Passer le million d'entrées, un film comme celui-ci a du succès et un succès largement mérité.
C'est un film donc inspiré de Persepolis, du même nom, bande dessinée autobiographique de Marjane Satrapi. Donc on peut dire un mot de Marjane Satrapi.
Marjane Satrapi a commencé effectivement comme bédéiste, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à la fois dessinatrice et auteur, puisqu'elle dessine ses œuvres comme elle les écrit aussi. Elle est devenue célèbre justement grâce à Persepolis. Persepolis, c'est une œuvre en 4 tomes, 4 tomes qui sont sortis à intervalles réguliers. Ce qui a fait encore le succès de la bande dessinée. On attendait la suite et les gens, les lecteurs ont marché, ont acheté ces bandes dessinées. Alors maintenant, l'avantage, et en plus ça fait une économie d'argent, c'est que la maison d'édition, dont j'ai oublié le nom, mais je vais retrouver l'association, voilà, c'est assez original comme nom, l'association a réédité Persepolis dans un seul et même volume, c'est-à-dire qu'on a les 4 tomes dans un seul et même volume. Ensuite, elle a continué dans la bande dessinée, a écrit Poulet aux prunes, qu'elle a aussi adapté au cinéma, et maintenant elle fait plutôt du cinéma, plus du cinéma que de bande dessinée, puisqu'elle a tourner 2 films en image réelle. Le dernier est encore à l'affiche et il a subi les affres de la pandémie. C'est Radioactive. Elle a fait une biographie. Ce film est une biographie de Marie Curie.
Donc, auteur de la BD et dessinatrice du film.
C'est elle, oui.
Voilà, c'est elle.
Et elle est aidée par Vincent Parronneau, puisque c'était la première fois qu'elle se lançait dans une telle aventure qui a plus d'expérience au niveau cinéma, mais qui lui aussi est un dessinateur et auteur de bande dessinée.
Alors parmi les thèmes, il y a celui donc de l'exil, puisqu'elle part à Vienne pour étudier, ce sentiment de ne pas arriver à se faire comprendre, et donc un autre regard aussi sur ce qui fait parfois notre actualité, simplement une lecture dans les journaux. On va écouter un autre extrait.
Mon désarroi était immense. J'étais à l'abri ici, menant une vie frivole, tandis que tous ceux que j'aimais vivaient dans l'enfer de la guerre. J'avais beau essayer, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment de culpabilité. Tout ce que je voulais était vivre comme une fille de mon âge. Le temps du changement approchait. En quelques mois, la gamine que j'étais devint une jeune femme. Ce fut une période de laideur sans cesse renouvelée. Tout d'abord, je grandis de 18 cm. Puis ma tête changea. Mon visage s'allongea, puis mon œil droit grossit, talonné par mon menton. Ma main droite devint énorme, puis mon pied gauche. Mon nez tripla de volume. Ma poitrine se développa, mes fesses apparurent, rétablissant ainsi mon centre de gravité. Et pour finir, un énorme grain de beauté décora mon nez.
Putain, quelle musique de merde.
De toute façon, il n'y a que des connards ici.
Ouais.
Tu vois, tout ce que voulait Bakounine, c'était de faire voter les résolutions socialistes au congrès des démocrates bourgeois à Genève.
Ah ouais.
S'il avait réussi, on n'en serait pas là,
ah
quoi.
Ouais. Ah bon?
Le capitalisme ronge notre société. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, c'est sûr. Enfin, ben voilà. Et dis-moi d'où tu viens. Marie-Jeanne, c'est ça, non?
Ouais. Je viens de... Je suis française.
Ah ouais, j'aurais pas cru. Ah tiens, l'année dernière, j'étais à Paris. Tu connais?
Attends, excuse-moi, je dois aller voir mes amis.
Ah, ouais. Bon bah, salut.
Alors, comme ça, tu es française?
Mamie, arrête.
Non, c'était juste une question. Je savais pas que t'étais française, c'est tout.
Si tu crois que c'est facile d'être iranienne ici? Dès que je dis d'où je viens, on me regarde comme si j'étais une sauvage. Pour eux, nous sommes tous des cinglés fanatiques qui passent leur temps à hurler en se tapant dessus.
Tu penses que c'est une raison pour renier tes origines?
Tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Reste intègre à toi-même.
Voilà, fin un peu cut, pardon. Il en faut du courage pour être exilé, hein, Paul Dima.
Oui, elle a une vie difficile. À la fois, elle passe de sa position de jeune fille à jeune femme. Et avec les copains qu'elle rencontre, elle est écartelée aussi entre ce qu'elle est et ce qu'elle veut paraître. Pas seulement physiquement, mais dans ce qui la constitue elle-même. Elle se fait passer pour française, mais elle voit bien que c'est à peine crédible. Et puis, elle entend en rêve la voix de sa grand-mère qui lui dit « Ah bon, t'es française ? Ah ben, je ne savais pas. » Donc, on sent tout l'écartèlement intérieur qu'elle vit. Et c'est traité en même temps avec beaucoup d'humour et d'autodérision, c'est-à-dire qu'elle passe des épreuves très difficiles, mais sa narration ne s'appesantit pas sur elle, c'est des passages et la vie continue, mais fortement malmenée.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce film, Paul Dima, si on reste avec vous ?
C'est la force du dessin de Marjane qui est extraordinaire. C'est pas du dessin animé, c'est du dessin d'animation. On a vu des films comme ça, comme celui
plus récemment
Aurel, voilà. C'est-à-dire que on voit que c'est clairement du dessin.
J'ai dit Aurel, pardon, excuse-moi. Aurel, c'est le réalisateur. Le film, c'est Josep.
Josep, voilà. Sur la Retirada. Ce film-là, on voit clairement que c'est du dessin que l'on fait bouger. Ça prétend pas être la réalité. Mais en même temps, cette distance permet à Marjane de livrer quelque chose de très intime d'elle-même parce qu'il y a la distance suffisante. Et de garder cette part aussi d'autodérision dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est très très fort.
Louis-Marie Soler, je ne sais pas ce que vous voulez évoquer. Ce qui me venait, c'est que c'est un film qui a été, on va dire, inégalement reçu aussi. Hein. En Iran a été publiée une version censurée. En Tunisie, des salafistes s'en sont pris à la chaîne de télévision qui l'a diffusé. Et dans d'autres pays du monde, ça n'est pas un film qui a eu un long fleuve tranquille, une vie comme
un long
fleuve tranquille.
C'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que c'est toujours pareil. Ces régimes qui sont toujours à la lisière. Quand je dis à la lisière,
de l'autre côté,
c'est une façon déguisée de dire qu'ils sont constamment des dictateurs, en tout cas ceux qui pensent comme ça, et en particulier l'islamiste extrémiste. C'est sûr que le film déplaît. La façon dont elle raconte son expérience, la façon dont elle parle de son enfance, et puis finalement, quand elle décrit la dictature, que ce soit le chat ou les gardiens de la Révolution, il n'y a pas beaucoup de différence parce que c'est toujours sur les mêmes qu'on tape. C'est assez extraordinaire quand même qu'on passe pour être un libérateur et qu'à l'arrivée, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Alors, on est en droit de se poser des questions. C'est ce qu'elle soulève dans son film, Marjane Satrapi. Et puis, elle parle d'elle, en fait, de sa famille, parce qu'elle parle, et c'est ça qui est très beau et très bien fait, c'est qu'elle parle d'une situation générale, en partant de l'intime, parce qu'elle parle de certains personnages de sa famille, donc je le disais, sa grand-mère, son oncle, et entre autres, et elle va vers ce qui se passe, vers le contexte géopolitique et politique.
On va écouter un deuxième extrait qui parle justement de son oncle, qui est un résistant au régime du Shah comme de la République islamique, hein, qui est un communiste et qui est une figure de résistance dans la famille.
Margie ?
Oui.
Ils ont arrêté Anouche.
Je sais. Papa.
Ça va aller, ma chérie. Tu veux faire quelque chose pour lui ?
Oui.
Anouche a droit à une seule visite. C'est toi qu'il souhaite voir.
J'irai.
Dix minutes.
Quelle belle robe. Quelle jolie petite fille. Tu sais que tu m'honores en venant me rendre visite. Tu es la petite fille que j'aurais rêvé avoir. Mais tu verras. Un jour, le prolétariat régnera. Tiens, je t'ai fait un autre signe en mie de pain. C'est le tonton du premier. Étoile de ma vie.
Voilà pour cet extrait. Alors moi, ce qui m'a frappé, Paul, je ne sais pas si ça vous inspire, c'est que elle, cette jeune fille, cette petite fille et cette jeune fille, n'arrive à relever la tête qu'en étant fidèle à son histoire familiale, entre autres à la mémoire de son oncle. Et ça, je trouve que ça pose des questions aux spectateurs que nous sommes.
Et en même temps, c'est une fidélité malmenée. C'est-à-dire qu'elle va passer par des moments où elle s'écarte un petit peu de son histoire, elle ne veut plus la porter parce qu'elle est trop lourde, mais elle y revient sans arrêt. Et ça, c'est intéressant, ce combat intérieur, par fidélité avec l'histoire transmise par sa famille, la place occupée par sa famille de ce combat-là pour la liberté, elle le vit aussi à l'intérieur d'elle-même. Et donc l'intime rejoint une dimension universelle en même temps. Plus c'est personnel, plus ça vient toucher peut-être le combat de chacun pour se libérer de ce qui opprime, et de ce qui opprime en particulier les plus faibles, et de façon totalement injustifiée.
Louis-Marie, la pause musicale.
Eh bien, la pause
notre DJ, qu'en dit-il?
La pause musicale, on la doit à Olivier Bernet, qui est le compositeur de la partition qui accompagne le film. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette bande originale est construite et remet les images en mémoire. Et c'est bien. Alors, ça arrive comme ça de temps en temps qu'une bande originale soit conçue comme celle-ci. C'est donc qu'on a certains morceaux qui sont... qui sont introduits par des extraits du dialogue, des choses qu'on entend dans le film. Et on passe par tous les genres dans cette bande originale. On a droit à de la musique rock, des choses plus douces, et même de la musique symphonique. Et on a droit à la fameuse reprise de Eyes of the Tiger qu'on a entendu dans la bande-annonce, interprétée par la petite Marjane, qui est sublime. Enfin, quand je dis la petite Marjane, c'est Chiara Mastroianni, qui est quand même une grande Marjane.
چشمون قشنگت لو میکرده شب تو موهای سیاهت خونه کرده دوتا چشمون سیاهت مثل شبهای سیاهی های دو چشمت مثل لب های منه وقتی باز از میشه هم پایین میاد بارون میشه زیر غم ها وادیمو ویرونه کرده وقتی با من میمونی تنهایی ما باید میبره دوتا چشمم بارون شب میکرده بهار از دستای من پر زد و رفت گل یخ توی دلم جوون میکرده اتاقم دارم از تنهایی آتیش میگیرم یه شکوفه توی این زمان
پرزنس ویوانت اگلیز امانوئل پلا
Vivante Église, le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin. Autour du plateau, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission cinéma de Radio Présence, N'oubliez pas l'ouvreuse, mercredi 19h, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes aux Pays et Centres Jésuites dans le Sud-Ouest, tous deux animateurs d'un ciné-parole, ciné-club au cinéma L'ABC, qui a du plomb dans l'aile compte tenu des circonstances. Mais un jour, on retournera au cinéma. Deuxième film, le chef-d'œuvre donc humaniste du mois. C'est donc Le Fils des frères Dardenne, Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne. C'est sorti en 2002. On écoute tout de suite la bande-annonce.
Je me suis comme.
C'est lui ?
Non.
C'est pas chiant.
Calme-toi. Calme-toi.
Mais je veux qu'il me dise son nom.
Calme-toi. C'est lui. Magali.
Vous l'êtes là, monsieur?
Non, ça va, reste à la voiture. Tiens. Bois.
Personne ne ferait ça.
Je sais.
Pourquoi tu le fais alors?
Je sais pas.
L'histoire, Olivier donc est formateur en menuiserie dans un centre de réinsertion sociale, et puis un jour la directrice lui demande d'accueillir un jeune adolescent qui s'appelle Francis, qui est désireux d'apprendre le métier du bois. Il va refuser et puis après il va accepter, et s'ensuit, on va dire, l'attitude de ce formateur Olivier avec ce jeune qui commence à le regarder du coin de l'œil, à l'épier. Voilà, on sent qu'il y a entre deux quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi, en tout cas jusqu'à la fin du film. C'est un film donc franco-belge. Paul Dima.
C'est un très très grand film, aussi bien au niveau cinématographique qu'au niveau de l'histoire qu'il raconte. On disait tout à l'heure, avant l'émission, qu'un illustre metteur en scène, pas metteur en scène, hein, c'est un illustre scénariste.
Oui, scénariste, Jean-Claude Carrière.
Qui disait « Le cinéma parlant a inventé le silence ». Et c'est vraiment le cas de ce film, Le Fils. Des phrases très très courtes, trois mots, sujet, verbe, complément, c'est tout. Pas de musique de fond, des bruits, et une caméra qui suit en permanence les gestes très précis de cet Olivier.
Très saccadé aussi. Hein.
Voilà, très très saccadé. Et on met 1h32 avant de découvrir la raison de l'attitude de cet instructeur pour le bois. Pourquoi il accepte, il refuse au départ, il accepte ensuite, et après il est un peu comme...
Pourquoi il est attiré en fait par ce jeune homme quelque part, enfin attiré...
Il est attiré et en même temps comme un félin un peu, et en même temps plein de bienveillance. Comme il le prend en retard, il va lui montrer des tas de choses qu'il a déjà expliquées aux autres, mais là il est... En vis-à-vis avec lui et avec beaucoup. Et il est assez admiratif aussi des progrès de ce jeune. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et on reste 1h32 avec cette question. Mais pourquoi cette relation-là, un peu du chat et de la souris?
Alors les frères Dardenne, Louis-Marie Solaire, ce sont des grands réalisateurs. Donc deux
qui
frères...
ne sont pas jumeaux.
Deux frères belges qui font partie donc du cercle, ai-je vu, des 8 réalisateurs 2 fois lauréats de la Palme d'Or,
oui,
au Festival de Cannes. Et leur cinéma, on appelle ça le cinéma social européen. Ils en sont la principale figure, c'est ça?
Oui, il y a 2 Anglais avec eux qui partagent la couronne, si on peut dire ça comme ça, oui. Ken Loach et Mike Lee.
Oui.
Voilà. D'autres
films, peut-être, pouvez donner d'autres noms qu'on les a en tête?
Maurice Pialat aussi, on pourrait dire.
Oui, oui, d'une certaine façon, oui, effectivement, ouais. Maurice Pialat. C'est toujours... Ils ont créé un style. Le leur est reconnaissable, style concret, toujours épurée, pas de facilité. Alors là, ils sont ça. C'est-à-dire que le spectateur, quand il se met dans le fauteuil d'une salle de cinéma et qu'il va voir un film des frères Dardenne, il faut qu'il travaille. Ça ne se fera pas tout seul. Hein, ça, il ne va pas être bercé, il ne va pas avoir ils vont lui tendre un... On aura des perches, bien sûr, parce que c'est jamais gratuit, mais
il n'y a pas d'échappatoire.
Non, effectivement, il n'y a pas d'échappatoire. Et c'est toujours pareil. Ils s'amusent avec le cinéma, les plans-séquences. Ils font des plans-séquences. Et puis surtout, ces plans-séquences sont surtout longs. Ils dilatent la durée. C'est une caractéristique assez importante, plutôt importante même de leur film, et c'est ce qui fait, alors souvent moqué, parce que quand on veut parler de films intellectuels durs, compliqués, avec des images un peu austères, on met toujours les frères Dardenne en avant. Vous savez, les stand-uppers, les comiques, ou quand on fait une chronique, c'est toujours sur les frères Dardenne qu'on tape. Ouais. Mais ça serait réducteur de dire qu'ils passent leur temps.
Vous pouvez citer d'autres films, peut-être ?
Ah, bah oui, mais il y a avant celui-ci, il y a Rosetta. Rosetta, le premier.
Pour lesquels ils ont été primés. Hein,
voilà, c'est la première Palme d'Or. Il y a La Promesse. Et il y en a d'autres. Et il y a L'Enfant aussi, très grand film.
Donc là, c'est Cannes, j'ai vu Cannes 2002, c'était pas la Palme d'Or, mais prix d'interprétation masculine pour Olivier Gourmet, donc Olivier, justement, aussi.
Qui joue le menuisier formateur.
Oui, vous pouvez dire peut-être un mot.
Gourmet est lui aussi belge, comme...
Comme on l'entend. Comme on l'a entendu.
Mais il a une carrière internationale. Hein. Il a joué beaucoup dans des films de langue française, mais récemment, c'est lui qui jouait dans... Edmond, hein, le film adapté de la pièce de Michalik, qui imaginait comment Edmond Rostand avait écrit Cyrano de Bergerac, et c'est lui qui faisait l'acteur, dont j'oublie le nom, l'acteur célèbre à l'époque, l'acteur français célèbre à l'époque, qui a incarné le premier Cyrano de Bergerac. Il a joué aussi, il a interprété notre ministre de la Justice. Dupont-Moretti, mais là, quand il était avocat, dans Une Intime Conviction. Une affaire qui nous concerne, nous, dans la région, et les Toulousains en particulier, puisqu'il parle de ce professeur de droit qui a été accusé du meurtre de sa femme.
Paul Dima, vous avez dit que c'était un très beau film. Vous avez expliqué peut-être pourquoi, d'un point de vue cinématographique. Sinon, si on doit revenir sur le fond, sans dévoiler l'histoire, c'est un peu compliqué, peut-être. Mais si c'est du cinéma social, qu'est-ce que ça nous montre là ?
Ça nous montre un homme, sa femme aussi, déchiré par un drame qui est survenu dans leur famille. Et les frères Dardenne ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils font référence d'ailleurs à Hannah Arendt, entre le désir de vengeance... Et le pardon, et chacun vit comme il peut ce drame qu'ils ont subi. Dans la trajectoire de ce film, on voit le passage douloureux de cet affrontement entre cet instructeur et ce jeune qu'il accueille. Il y a une très belle scène qu'on vient d'entendre là. Sa femme lui dit « Mais c'est pas possible, personne ne ferait ça. Et pourquoi t'as fait ça ?» Il dit « Je sais pas. » Mais en même temps, il s'affronte à cette énorme difficulté qu'il a à gérer. Il sait que s'il ne s'y confronte pas, ça va le poursuivre toute sa vie. Et il ne peut pas faire l'impasse. Et donc, courageusement...
Et il fait du chemin, du coup.
Et il fait un chemin extraordinaire. Extraordinaire. Et nous avec, parce que dans le film des frères Dardenne, dans la façon de filmer, on est toujours derrière lui, on assiste à tout ce qui se passe en le regardant par-dessus son épaule. La nuque a une extrême importance. Et pour le tournage de ce film, Olivier Gourmet avait dit au jeune acteur Morgan Marine, qui joue le rôle de Francis, « Je ne veux pas parler avec toi ». Il dit « C'est pas contre toi, mais c'est pour le film. Si on parle ensemble, je vais être incapable de... Ça va tout transformer, l'histoire du film. Je ne veux pas te parler. » Et il y a des scènes comme ça.
Et il ne parle pas de fait, hein. Ou alors il se parle juste pour se donner des instructions.
Des instructions, saccadées. Mais en même temps, on sent qu'il a une grande estime, enfin une estime qui grandit vis-à-vis de ce jeune, tout en étant partagé. Mais il apprend bien, il est très attentif, il progresse.
Il n'était pas celui qu'il imaginait aussi. Hein.
Voilà, voilà.
Louis-Marie,
c'est,
pourquoi un grand film ?
Ah ben, c'est la construction, parce que le film s'appelle Le Fils, mais on peut considérer qu'il y a une partie du film, le début en particulier, qui concerne le père. Ce qu'il est, ce qu'il fait, ce qu'il amène, et comme l'a dit justement Paul Dima, à un moment on apprendra la raison de ce choix, et pourquoi il s'est exclamé, en fait, pourquoi tu fais ça ? Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Et après, il y a le fils. On voit ce qui se passe, la relation entre deux. Et on est plus éclairé maintenant par rapport au comportement de ce père. Et puis, il y a la troisième partie. Si on peut parler d'une partie, c'est le pardon. Mais c'est la question. Le spectateur... quand je disais que le spectateur est mis à contribution, mais il est bien à sa place. Le spectateur, ben, il est un peu comme les personnages, comme ce père. Et c'est une position éthique, en fait. Et le spectateur est libre de son jugement, à la fois pour l'attitude du père et à la fois l'attitude de ce fils. C'est ça qui est fort dans ce film. Et puis, il a le mérite, en fait, de poser cette question qui revient à chaque fois, la question... qu'on peut trouver dans d'autres films aussi, celle de l'absolution. Voilà, tout est dit, ce film, c'est tout ça à la fois.
Oui, et c'est un pardon qui ne peut venir qu'après avoir fait l'expérience que lui-même est habité par des sentiments qu'il prête à ce jeune, et qu'il aurait pu lui aussi faire comme lui. Et il y a une scène
c'est une vraie terrible, vraie expérience de l'altérité.
C'est une vraie expérience que... ce qu'il peut reprocher à l'autre et la violence qu'il peut avoir contre lui, elle l'habite lui aussi. Et après cette scène-là, jusqu'à la fin du film, il n'y a plus une parole, mais tout passe par les regards et par les gestes. Et à la fin, ils refont ensemble ce pour quoi ils étaient venus.
Eh ben vous en parlez bien en tout cas, mais c'est vraiment un film à voir, et preuve qu'il vous a plu, c'est la deuxième fois qu'on en parle, mais ça valait bien le coup. Louis-Marie Soler, DJ ?
Alors là, c'est pas la musique du film des Frères Dardenne, et pourquoi il n'y en a pas ? Donc c'est une musique qui va introduire notre film suivant, qui tourne effectivement autour de la musique, et un moyen de rassembler des gens qui d'habitude se tapent dessus, et quand je dis se tapent dessus, qui s'entretuent. Et là, on va écouter une musique qui... un thème qui est chanté en hébreu, mais dans ce film, il y a des chants aussi en arabe, et vous allez comprendre pourquoi. Voilà donc, laissez-moi retrouver... Non, je ne peux pas vous redire l'interprète.
Non, vous ne pouvez pas, vous le retrouverez après, c'est pas grave.
On le retrouvera après.
Shirayich Ani Kino
Emmanuel Pella.
Le grand écran, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence, et Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs et centres jésuites dans le sud-ouest. C'est deux chroniqueurs d'une certaine manière de cette émission. Dernier film choisi d'une seule voix, c'est un documentaire signé Xavier de Lausanne, sorti en 2009. L'histoire, vous allez la découvrir à travers la bande-annonce, en tout cas une petite partie qui va nous mettre dans l'ambiance, et l'histoire, on vous la racontera après.
No matter who we are, if we are from Gaza, if we are from Yerushalayim,
we have to try to rethink again about another way, which is dialogue. Well, music is the first beginning.
Alors, la bande-annonce est essentiellement en anglais, donc on passera à un autre extrême et on va s'arrêter là. L'histoire, c'est l'histoire en fait d'une tournée musicale. Tournée musicale de musiciens israéliens, palestiniens, juifs, chrétiens, musulmans. Sachant que parfois ces réalités peuvent se recouper. C'est une tournée qui a eu lieu en 2006. Ils sont invités en France et à ce moment-là, ils ont été suivis donc par Xavier de Lausanne. Tournée emmenée par un certain Jean-Yves Labatte de Rossi, vieux routard de la musique. Et donc on découvre ces musiciens et tout ce qui se joue en coulisses, Paul Dima.
Oui, c'est ça. L'intérêt du film, c'est cette tension entre le projet de la tournée, qui est triomphale d'ailleurs, dans 14 villes françaises, dont Toulouse, Marseille, etc., Paris, un accueil très chaleureux du public et ce qui se passe aussi dans les coulisses. C'est-à-dire que vouloir construire la paix grâce à la musique, il y a du travail. Et qu'il ne suffit pas de chanter ensemble.
Ce que ne voient pas les spectateurs.
Ce que ne voient pas les spectateurs. Et les spectateurs sont sûrement très pris aussi par ce noble projet. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir des Israéliens, des Palestiniens, des Juifs, des Arabes, chanter la musique des autres, etc. Et c'est vrai, il y a une vraie rencontre. Mais en même temps, on voit à plusieurs reprises dans le documentaire fait par Xavier de Lausanne que derrière cette « chantons ensemble et le monde est parfait », que ça dérape au moindre truc. Et que
ça manque de s'arrêter même.
Eh ben oui, à plusieurs reprises, on dit, ah ben non, ça continue comme ça, c'est terminé, hein, moi je rentre. Hein.
Louis-Marie Solaire, Jean-Yves Labatte de Rossi, vous vouliez nous dire un peu quelques mots sur cet homme?
Dans le monde de la musique, en fait, ce monde particulier, de Rossi est né en 47, donc il a 73 ans maintenant. Et il a été à Woodstock. Oui. Il était à Woodstock. Il a été à Jérusalem. Il a été en Ouganda. Il a été à Sarajevo. Il est ingénieur du son. Il est producteur. Et il a toujours consacré sa vie à la musique. Et il a créé un label indépendant qui s'appelle Ad Vitam Records. Et qu'il dirige depuis le prieuré de Saint-Avit, qui se trouve dans la Creuse. Et depuis 14 ans, avec sa compagne, c'est assez extraordinaire.
Oui.
Alors, pour certaines personnes, il reste une rockstar, puisqu'il était un des premiers à avoir utilisé les synthétiseurs dans un groupe qui s'appelait Utopia. Et puis, il a quand même découvert quelques talents. Alors, ça a commencé. Il avait d'abord organisé un concert où il réunissait ses musiciens, je crois que c'était à Jérusalem, et c'est comme ça que lui est née l'idée de faire cette tournée. Et c'est vrai, le parti pris de Xavier de Lausanne est passionnant, parce qu'en fait, c'est pas la tournée, enfin, il filme la tournée, c'est pas un concert filmé, c'est en fait ce qui se passe dans les coulisses, et ça, c'est en fait le plus important, parce que sur scène, finalement...
Il faut quand même le faire, de faire un documentaire avec ça, faut le dire aussi, c'est aussi une prouesse. Hein, c'est...
Oui, mais il a bien choisi l'angle pour raconter cette histoire. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est la confrontation de ces gens. Et les musiciens, quand ils sont en scène, une fois qu'un musicien est, qu'on est sur scène, il est dans la musique. C'est ces moments où ils ne sont pas dans la musique, c'est ces moments où ils sortent de scène, ces moments de transition, ces moments où ils vivent ensemble, qui sont intéressants. C'est ces moments où l'explosion, la mèche, on peut mettre le feu aux poudres et tout peut péter, ne serait-ce que l'un parce qu'il porte t-shirt de la Palestine.
Prenez un exemple, il y a celui qui fait un signe aussi sur scène à la fin d'un concert.
Il y en a un qui fait lever de la victoire. Et évidemment, c'est un Palestinien qui fait ça. Et alors tout de suite les autres, et la foule applaudit parce qu'on est dans un contexte très tendu, Israël-Palestinien. Et alors là, les Israéliens prennent ça très très mal, en disant « oui, il fait hommage à Arafat, il dit qu'ils vont gagner et tout, nous on arrête tout, c'est pas possible. »
De Jean-Yves Labatte de Rossi, justement.
Et Labatte de Rossi dit « arrêtez de faire rentrer votre politique de merde, vous foutez en l'air tout mon boulot », ce qui veut dire que, malgré la musique, ça reste tout à fait fragile. Tout à fait fragile. Il y a aussi une scène dans le bus, parce qu'ils font de longs trajets en bus, d'un côté israélien, de l'autre côté palestinien, et il y a des fois, des débats très, très difficiles. Alors avec humour, il y en a qui dit « Ah, attendez, je fais l'ONU, là, au milieu, on n'a pas le droit de traverser l'allée », parce qu'on sent que ça peut exploser. Et la question qui est derrière, c'est « Est-ce que je peux faire confiance à celui qui est mon ennemi ?»
Alors on va écouter la fin, ça va nous continuer à nous remettre dans l'ambiance avant de reparler.
No matter who we are, if we are from Gaza, if we are from Yerushalayim,
we have to try to rethink again about another way, which is dialogue. With music is the first beginning.
If you sing the songs of the other side, you cannot bomb them.
Si vous chantez la musique de l'autre partie, vous ne pouvez pas après les bombarder. C'est en tout cas la fin de ce documentaire. Comment ils font du chemin ? Parce qu'il y a une scène finale, on a l'impression qu'eux-mêmes, ils sont rentrés dans ce rêve, en fait, ce rêve de paix.
Oui.
Quand ils sont tous sur scène à danser, il y a une ivresse quand même.
C'est vrai, sur scène, ça y est, l'union est faite. Dans et par la musique. Et ça, c'est vrai. Et ils s'estiment beaucoup comme musiciens et ils sont très heureux de cette expérience-là. Mais en même temps...
On peut imaginer qu'ils se bombarderaient derrière plus difficilement quand même.
Oui. Et d'ailleurs, la réalité va les rattraper parce qu'ils apprennent qu'un des membres de la chorale a été tué par une roquette. Il dit « Mais je l'aimais bien, celui-là, et puis c'est quelqu'un que je connaissais. » C'est plus un Israélien ou un Palestinien, c'est quelqu'un que je connaissais. Et à la fin du film, il y a une Palestinienne qui dit « J'ai appris à les connaître, à les aimer, nous sommes pareils. » Et puis elle reste en silence, et puis elle dit « Mais je ne crois pas qu'il y aura un jour la paix. » Et alors on lui dit « Mais pourquoi ?» Et dit ben, « parce qu'en face, il n'y croit pas non plus ». Donc, ça dit le chemin qui reste à faire, et que la musique peut être un moyen de se rencontrer, de s'apprécier, de s'estimer, mais ça ne résout pas les questions politiques et les violences subies.
Louis-Marie Soler, pourquoi c'est un... Vous l'avez choisi en catégorie chef-d'œuvre. Hein.
Il ne faut pas galvauder les mots, mais...
Il faut dire qu'il a été largement primé, quand
oui,
même.
Oui, aussi. Aussi, mais c'est, ce que je disais, ça tient à l'œil et la façon qu'a eu de filmer cette tournée Xavier de Lausanne. Une équipe minimale, la caméra sur l'épaule, donc on est toujours au plus près de ces musiciens et de ces gens, ces musiciens, on disait israéliens et palestiniens, et même dans les palestiniens, on a des gazaouites et des cisjordaniens. Là aussi, il y a quand même, c'est compliqué, c'est différent, suivant qu'on vive à un endroit plutôt qu'à un autre. Néanmoins, l'affiche porteuse d'espoir, puisqu'elle montre le couple vedette de cette tournée, la chanteuse israélienne qui s'appelle Eti, qui est une chanteuse pop, et puis il y a un rappeur arabe, c'est Saz, et ils chantent ensemble, un mélange de pop et de rap, et ils sont effectivement...
En échangeant leur chant.
Oui, exactement. Et c'est eux, d'une certaine façon, les vedettes de la tournée. Mais c'est vrai quand même que le constat reste amer. Hein. On a des raisons d'espérer, comme le disait Paul Dima, les liens tissés entre deux concerts sont plus des anonymes, ils se connaissent, cette amitié naissance et l'envie de continuer à chanter ensemble malgré tout. C'est ça, c'est ce petit bout d'espoir et cette façon de tourner de Xavier de Lausanne qui fait que ce film est remarquable.
Paul Dima, peut-être une dernière chose, c'est que l'actualité aujourd'hui n'est plus concentrée sur cette partie du monde, mais en fait c'est dans le fond là toujours qu'on l'espère, la paix, et particulièrement quand on est croyant.
Oui, et ceux qui vivent dans ce pays-là, des deux côtés, ou des multiples côtés, parce que c'est pas binaire, ont conscience aussi que ce qui se joue chez eux est d'un enjeu qui dépasse de loin leur seul pays.
La paix promise est à Jérusalem.
La paix, voilà. Et que la paix au Proche-Orient conditionne bien plus large que eux-mêmes.
Eh bien, merci beaucoup pour cette balade cinématographique. Ce sont des films à voir, évidemment, derrière votre petit écran, à défaut d'aller les voir sur le grand écran. Persepolis, donc, de Marjane Satrapi et de Vincent Parono. Le fils des frères Dardenne, Jean-Pierre Dardenne et Luc Dardenne, et D'une seule voix de Xavier de Lausanne. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.